Troisième table ronde de ce cycle d'exposition de table ronde et de performance de mon commissariat en résidence qui se termine le 12 décembre où vous êtes tous invités et où il y aura à la fois finissage, lancement du catalogue, catalogue livre qui recouvre la totalité des trois expositions étant intitulé ces trois expositions « L'art et le numérique en résonance ». Mon éditeur a enlevé les articles, ça donne « Art et numérique ». En résonance. On a fait deux précédentes tables rondes aussi qui concernaient la question de l'art, du numérique et de la recherche. Au début, et celle-ci, elle est davantage liée à la question de la collection. Sachant qu'on a aussi fait trois expositions qui étaient sur les questions de la convergence de l'art et du numérique, de la réémergence des pratiques historiques au travers du numérique et aujourd'hui sur les conséquences à tout point de vue. Et donc autour de moi, j'ai la chance d'avoir Bertrand Plane qui est dans l'exposition, qui a cette horloge qui mesure sa propre vie. La chance d'avoir aussi Philippe Ries de la galerie Expo qui nous a aimablement prêté l'œuvre de Clément Vallat, qui est une pièce moi, que j'aime beaucoup, que j'avais découvert à ta galerie, et qui a aussi comme artiste qui représente Aram Bartol à Paris. Et puis on a aussi Hampus Lindwall, qui nous a prêté la pièce dont on a baissé un tout petit peu le son à l'instant, mais dont on entendait le son de Raphaël Rosendahl, Falling Falling, et qui nous a prêté aussi deux pièces de Petra Cortwright et de Corey Arcangel, et qui a participé à donner un caractère très international, qui ont participé à donner un caractère très international à notre exposition, même s'il y a eu aussi, je pense que c'est important, des artistes parisiens, français, etc. Donc, sachant le climat par trop tendu, j'ai décidé de préparer quelques questions que je poserai ou pas, je vais peut-être en inventer entre-temps ou en supprimer, mais disons des questions pas trop sérieuses, prévoyant d'aller de la question naïve à la question idiote. Et je vais commencer avec toi. Mais comme je vous sais déjà trop sérieux, je me suis dit que j'allais détendre l'atmosphère avec des questions débiles. Et la question que je veux te poser, Bertrand, Bertrand, donc l'artiste de la table, le seul, l'unique, une question que, très honnêtement, se posent sans doute les jeunes artistes, et que jeunes et moins jeunes d'ailleurs, et qui est évidemment très naïve, mais en même temps, tu peux avoir une réponse, c'est comment intégrer une galerie quand on est artiste.
Ah ouais.
Et en même temps, on me l'a souvent posé.
Très bonne question, hein, très très bonne question. Bonsoir à tous. Comment y répondre? Je pense que je pourrais aborder un début de réponse en parlant de mon expérience, peut-être.
Oui.
Peut-être la meilleure chose que j'ai à faire. Moi, j'ai intégré une galerie 3 ans, je crois, après la sortie des Beaux-Arts. J'ai fait les Beaux-Arts à Grenoble, donc j'étais pas dans un contexte parisien, très impliqué dans un contexte parisien au début. Mais je suis venu à Paris pour terminer mes études aux Arts Déco. Et quelques années après, j'ai intégré une galerie, j'essaie de me rappeler. Et c'est en fait par l'entremise de l'AFA, anciennement AFA, l'Institut français désormais, qui avait un programme assez intéressant qui s'appelait la carte jeune génération, je crois, qui permettait à des artistes de gérer un projet de A à Z et de partir en binôme à l'étranger pour monter une pièce. Et moi, j'avais monté une installation en Bolivie, une installation stéréoscopique, et j'avais dû, du coup, avec ce potentiel qui m'était donné par l'AFA, c'est-à-dire un billet d'avion pour un curateur ou un critique d'art ou un galeriste, prospecter dans Paris et proposer un voyage, en fait. C'était pas mal.
Ah, ok.
Oui, pour une fois, les choses s'inversaient. C'est-à-dire qu'on n'était pas en position de demandeur, mais on pouvait offrir quelque chose. Et j'ai rencontré comme ça beaucoup de personnes et Corentin Hamel.
Qui est toujours ton galeriste.
Qui est toujours mon galeriste.
La New Gallery.
C'est ça, la New Gallery. Enfin, Corentin est venu avec moi, mais j'avais rencontré un autre galeriste avant qui m'a pris dans sa galerie. Qui n'est pas parti avec moi. Corentin est parti avec moi et il est devenu ma galerie ensuite. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Mais c'est vrai que si on décide de vouloir entrer en galerie, et, je ne sais pas, c'est vrai que cette histoire de porter un portfolio, d'amener un portfolio dans...
Il ne faut pas le faire.
Je ne sais pas, en fait.
Hein, toi, tu dis non plus. Hein.
Le galeriste est bien placé pour répondre. Je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas, oui. C'est vrai que c'est dans une position... C'est un peu comme mon amour, je pense.
Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est n'hésitez pas tous les trois, parce que je pense que je pourrais poser les mêmes questions à tous les trois. Vous auriez évidemment
Bah oui,
trois
bah.
réponses totalement différentes. Et tu nous confirmes en effet, Philippe, que amener un portfolio débotté comme ça, faut peut-être pas le faire. C'est pas forcément la meilleure.
Bah, c'est assez pathétique, effectivement. Je ne sais pas si on
Oui,
m'entend.
on t'entend.
Non, je pense que ce que Bertrand vient de dire est très très juste en termes d'histoire d'amour. Il y a beaucoup d'affectifs entre un galeriste ou une galeriste et l'artiste. Alors des fois ça passe ou ça casse, c'est aussi beaucoup de divorces. Mais je crois effectivement, bon, il n'y a pas de cas spécifique, mais chaque histoire est différente dans la rencontre d'un artiste. Il y a des artistes que j'ai rencontrés, que j'ai vu une image sur Facebook, et j'ai pris mon premier, notamment je parle de Vincent Brocaire, en fait, il était encore à l'école. J'ai vu une image passer sur Facebook dans mon feed, je ne sais pas du tout comment, parce que j'étais pas abonné, en fait. Et j'ai sauté dans le, j'avais habité Londres à l'époque, et j'ai sauté dans le premier avion pour aller à Strasbourg, pour rencontrer la personne. Et l'entente a été immédiate, et je le représente depuis maintenant 3 ans, la date d'ouverture de la galerie. Sur d'autres artistes.
Sachant que tu l'as trouvé en
Ah
sortant
lui,
d'école d'art.
il était même pas encore diplômé, mais j'ai tout de suite senti que ce qu'il faisait était dans la ligne de la galerie, dans les recherches que la galerie essaie de faire. Mais c'est fort à parier que si Vincent était passé un an après avec son portfolio de dessins à la main, je n'aurais pas eu le même rapport et ça n'aurait pas engendré la relation qu'on a aujourd'hui. Donc effectivement, n'apportez pas vos portfolios, n'envoyez pas d'email, ne téléphonez pas, faites-vous désirer.
Alors, en plus, tu peux rebondir aussi sur la question de comment l'artiste rencontre son galeriste, ou l'inverse du reste, ou peut-être même le collectionneur rencontre l'artiste. Mais j'avais aussi pensé à une autre question. Quant à la possession d'œuvres, là, tu as une œuvre ici dont je montre à tout le monde allègrement que dans la barre de titres, il y a le nom de l'artiste, le nom du collectionneur, le nom de l'œuvre, le nom aussi du musicien, du compositeur, du sound designer. Et on sait par Raphaël qui nous dit qu'elle est visitée jusqu'à 1 million de fois par an. C'est un de ses hits.
4,5
Pardon,
millions
excuse-moi,
par an.
excuse-moi.
Oui, par an.
Alors, ma question est d'autant plus naïve, c'est comment peut-on revendiquer la possession d'une œuvre que 4,5 millions de personnes voient par an?
Oui, c'est une question qui est assez intéressante parce que c'est, je pense, on peut dire la dernière arrivée des choses immatérielles. Enfin, si à partir de l'âge de pierre ou des sculptures, des peintures, etc. Enfin, on a toujours quelque chose qui est très facile à collectionner. Et à partir du moment où il y avait la photo, déjà, on a commencé à se poser des questions, parce que qu'est-ce qui est l'original et qu'est-ce qui est le négatif, est-ce qu'on peut reproduire, blablabla. Avec la vidéo, encore plus. Maintenant, donc, le site Internet, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde 24 heures sur 24, de partout dans le monde. Et Raphaël, il a expliqué ça comme à peu près comme être propriétaire d'une sculpture dans un parc. Donc on est là, enfin, ça coûte 50 balles par an pour juste entretenir le site web hosting, etc. Après, on a ce qui pourrait être équivalent d'aller
Nettoyer la
nettoyer
sculpture.
sa sculpture dans son parc ou je sais pas quoi. Et puis, donc, il y a dans le parc des gens qui viennent visiter le voir, ce qui est donc Internet, où il y a des gens qui peuvent aller le voir. Donc, en fait, au lieu d'avoir une petite plaque comme ça, que ça appartient à quelqu'un, ici, c'est dans la barre où on met l'adresse sur Internet, où c'est marqué collection de. Donc ça date le premier site internet comme œuvre d'art date de 1995. Donc ça c'est quand même 20 ans que ça existe. Et il y a assez peu de collectionneurs encore. Je pense que ça va. Maintenant, ça a commencé à prendre un peu d'intérêt, mais peu. La raison pour laquelle parce que c'est pas normal que ça soit vu autant de fois, cette pièce, mais. Pour l'anecdote, c'est rigolo, parce que j'ai aussi d'autres sites internet, d'autres artistes qui sont vus peut-être des centaines de fois ou même moins. Mais parents. Mais juste, il y a quelques années, il y avait quelqu'un qui avait fait un site qui s'appelait The Useless Internet, l'Internet qui sert à rien. Et il y a juste un bouton où c'est marqué « Amène-moi voir un autre site complètement inutile sur Internet ». On pouvait cliquer, on allait sur des sites à la con que des gens avaient fait. Et parmi ces sites, ce site est devenu un très grand succès. Et là-dedans, ils avaient mis ce fall que vous voyez ici. D'où, c'est là où ça a explosé le nombre de visites sur cette... Donc, il y a beaucoup de personnes, enfin, je dirais 90% de gens qui vont le voir, ce site, n'y vont pas pour voir une œuvre d'art. C'est juste des gens qui cliquent parce qu'ils ont vu que c'est quelque chose d'inutile, ils ne comprennent pas. D'ailleurs, ils se bloguent. Même sur YouTube, il y a une vidéo de quelqu'un qui dit que... qui parle des sites qui ne servent à rien, où il est aussi... Il y a plusieurs blogs aussi où il est nommé. Donc, il a eu beaucoup de publicité pour, grâce à ça.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup de pièces qui sont relativement plus figuratives et narratives, et celle-là est tout particulièrement abstraite, même si le titre nous en donne une lecture. Alors, je reviens vers toi, Bertrand, pour te poser une question. Récemment, on s'est vu dans des contextes très différents, des contextes de galeries, des contextes de centres d'art, des contextes de festivals. Ce sont des contextes relativement différents, même si on y présente des œuvres au public. La question que j'ai envie de te poser, c'est, j'imagine qu'il arrive, est-ce qu'il t'arrive, lorsque tu penses une œuvre, d'en envisager déjà le contexte, de penser que peut-être elle serait davantage adaptée à une galerie, donc peut-être un collectionneur privé, ou plus spécifiquement un festival pour des questions de taille, par exemple. Est-ce que dès la conception de l'œuvre, je ne parle pas de marchandisation, mais est-ce que tu en envisages le contexte ?
Ben, je dirais oui et non, parce que c'est vrai que ce qui caractérise une partie de mes pièces, qui sont souvent dans de très nombreux cas des installations, je travaille in situ. Donc forcément, il y a un rapport à l'espace, un rapport au lieu qui est déjà prévaut, c'est-à-dire que la taille varie, je reconstruis à chaque fois les installations qui circulent en fonction du contexte. À Wroclaw, par exemple, où on s'est vu, à Wrocław en Pologne, on a refait une installation à l'échelle du lieu. Et c'est vrai qu'à l'origine, l'installation a été créée pour la Fondation Vasarely. Donc, dans mon cas, oui, je pense à ça. C'est vrai, mais je vais pas au point penser mes pièces pour qu'elles soient vendues ou qu'elles, tu vois, pas du tout. Après, c'est vrai qu'il est quand même nécessaire d'imaginer. Enfin, dans mon cas, j'imagine que les pièces sont vouées à être regardées et vues. Donc, il y a un aspect plastique, si tu veux, une forme qui est quand même réfléchie pour que, non pas qu'elle s'adapte à un lieu particulièrement, mais au moins qu'elle s'adapte à un public. C'est-à-dire que c'est comme un médicament, quelque part, je vois ça comme ça. Il y a un principe actif, et il y a une sorte d'enveloppe qui existe et qui permet d'assimiler ce principe actif. Je vois vraiment la construction d'une pièce en deux temps, comme ça. Mais c'est vrai que chronologiquement, je pense plutôt au principe actif, et ensuite j'essaie de voir comment la faire exister. Donc oui, je pense d'une certaine manière à la forme, je dirais, voilà, quelque part. C'est important, parce que j'ai fait beaucoup de pièces que je qualifierais d'absolu, disons, mais qui n'avait aucune résonance finalement, parce qu'elle ne parlait qu'à moi. Alors il y a ce petit pas à faire de côté, je pense aussi, pour permettre de les faire exister et trouver un espace ou un regard qui permet de leur donner sens, quoi.
Alors justement, pour rebondir sur cette question pour toi, Philippe, est-ce que c'est pas notamment et pas seulement, hein, le rôle d'un galeriste que de veiller, j'avais noté la compatibilité, c'est peut-être pas le mot est fort, mais disons la compatibilité avec soit les institutions, soit les collectionneurs privés, quant à certains artistes qui, notamment dans ta galerie, ont eu un parcours parfois fait aussi de festivals où on a rarement des contraintes de taille, par exemple, alors que les collectionneurs que l'on voit à ta galerie ont plus facilement des contraintes de taille. Quoique, je sais que tu as vendu un Aram Bartol qui fait 4 mètres de haut récemment. Pardon. Mais alors, là, est-ce que c'est pas aussi le rôle du galeriste que d'encadrer, sans changer l'œuvre, évidemment.
Sans jeu de mots.
Hein?
Et sans jeu de mots, non.
Oui, sans jeu de mots.
Après, il y a différents types de galeries. C'est-à-dire, il y a différents types de marchés, il y a différents types de galeries. En tout cas, en ce qui me concerne, je me considère comme une galerie prospective. Donc, l'idée, c'est de commenter, de découvrir de nouvelles choses. Généralement, les artistes sont totalement carte blanche dans la galerie pour pouvoir nous informer sur l'état du monde. Et jamais j'ai dans la tête le marché. D'ailleurs, si j'avais dans la tête le marché, je serais beaucoup plus riche. Mais, enfin, je veux dire, si on a une galerie et qu'on a la tête du marché, moi, je n'ai pas l'habitude de dire autant ouvrir un magasin de chaussures. Après, tout positionnement est tout à fait respectable. Mais en ce qui concerne la galerie, on a une vision à long terme. Donc, on laisse vraiment les artistes travailler leurs recherches. Et j'ai vraiment, vraiment jamais derrière dans la tête le marché, vraiment jamais.
Ok.
Je sais pas si on va un peu plus parler du marché après.
Oui, mais tu peux aussi déjà.
Mes galeries n'ont jamais demandé de faire quelque chose qui a une forme particulière pour répondre à une certaine attente.
Parce que ça, on peut le faire. Hein. On sait très bien ce qui se vend comme des petits pains. Après, il y a des artistes qui ont des recettes. Il y a des tas de choses. Ah, ouais. Maintenant, le marché est en plein changement. Je pense qu'on en parlait tout à l'heure. Donc, on peut réserver ça sur tout à l'heure. Mais moi, j'ai pour habitude de dire que le marché actuel, par le biais des foires traditionnelles, qui sont Frise, Fiac ou toutes les foires, parce qu'il y a une foire par semaine, me semble-t-il, dans le monde actuellement, sont devenues quand même globalement un énorme marché de la décoration, à mon goût. Et que si vous êtes vraiment intéressé par l'art contemporain et par d'être mis en relation avec des artistes, de creuser un peu plus, il faut sortir des allées des galeries et j'ai dit vraiment le mot galerie. Il faut plus aller dans les ateliers d'artistes, parler au commissaire d'exposition ou des choses comme ça. Mais, voilà. Donc raison de plus par rapport au positionnement de la galerie. Où jamais je vais demander à un artiste de s'adapter à une pièce pour la FIAC ou autre foire.
Alors, question posée de manière un tout petit peu différente, puisque là on est en train de parler du temps de la conception et de la production. Te concernant en plus, est-ce qu'il t'arrive parfois de participer à la production, en laissant, j'imagine, encore toute liberté aux artistes, mais est-ce qu'il t'arrive de participer à la production, ce qui n'est pas nécessairement le rôle d'un collectionneur?
Oui, ça m'est arrivé parce que je suis ami avec plusieurs artistes aussi que je collectionne. Et parfois, j'ai aidé un peu avec la production économiquement. En contrepartie, après, j'ai eu une pièce. Une fois qu'ils ont tout vendu et remboursé, j'ai eu une pièce gratos ou gratuitement ou des choses comme ça. Voilà. Donc, c'est une forme de...
Alors je n'hésite pas à rebondir. Hein.
Non, je disais qu'en fait, justement, tu parlais tout à l'heure de l'acquisition d'un site internet, et là-dessus, tu es archi précurseur. Mais est-ce que tu ne te sens pas plus presque mécène que collectionneur, justement, à ce titre?
C'est clair que ça, c'est de la. On paye la post-production, puisqu'on paye quelque chose. Une fois le résultat, on le voit. À la fois, après on pourrait dire que le prix sur le second marché serait zéro, peut-être, ou plus. Enfin, moi je me verrais bien acheter il y a d'autres sites que j'aimerais bien posséder, par exemple, qui ont été achetés par d'autres personnes, mais que je ne pourrais pas avoir. Mais, même si on peut le voir comme mécène, ou alors. Moi, je le vois plutôt comme je trouve que ça fait tellement partie de notre. Ce sont des techniques ou des procédés qui sont tellement contemporains aujourd'hui avec nos internets, etc., ordinateurs. Je trouve que c'est si on construit une collection aujourd'hui, ça doit en faire partie en quelque part. Parce que on ne peut pas se dire que je collectionne de l'art contemporain, mais je n'ai pas de site internet parce que je ne peux pas les revendre. Dans ce cas-là, on n'a pas compris la contemporanéité. Je pense que c'est vraiment important de les intégrer comme un médium qui est vraiment propre à notre temps. Voilà.
Et finalement, tu m'avais dit aussi une fois dans une interview qui est publiée dans le catalogue que acquérir le site d'un artiste, une URL, c'est aussi lui offrir la possibilité d'en faire un autre.
Et dans une... je peux rajouter que donc ça, même si on le voit comme un mécénat ou que ça, on achète quelque chose qui n'a pas proprement de valeur, je pense que le restant de la collection prenne de valeur. Et pour le coup aussi cette pièce-là, parce que justement puisque ça renforce un petit peu le concept et l'idée globale de cette collection.
Même l'idée de mécénat, c'était pas dans l'idée d'acheter une pièce qui n'est pas monnayable, c'était vraiment dans l'idée justement, tu parlais de contemporanéité, on sait très bien que les émergents ont besoin de backers, donc moi j'appelais ça mécène pour être plus joli, mais on sait très bien qu'un artiste qui n'est pas backé par un grand collectionneur, il faut à l'échec. Donc il y a aussi cet aspect des choses
Alors,
auxquelles je pensais.
je voudrais qu'on évoque aussi un petit peu, sans y passer trop de temps, un petit peu la question de la pérennité, puisque considérant ces médias tout particulièrement variables, ça n'est pas sans poser des questions, ça en a posé beaucoup. Je pense que c'était très d'actualité il y a 10 ans, ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui, parce que je pense que le marché aussi a changé. Question pour toi, Bertrand. Est-ce que quand tu conçois une œuvre, alors tu as des œuvres avec des formes extrêmement diverses, il y a parfois une part de technologie, voire une part de code, est-ce que tu les documentes avec des instructions? Je pense ces instructions qui aujourd'hui sont ou seraient chères aux restaurateurs d'œuvres de Nam Myung Paik qui nous a quittés il y a quelques années, par exemple. Est-ce que tu te... Je ne vais pas dire, mais en même temps, finalement, tu es celui qui nous montre la pendule de ta vie et qui marque ta possible mort. Est-ce que tu l'envisages en accompagnant tes offres d'instruction?
Il y a des instructions qui sont en général ce qu'on appelle des fiches techniques, donc qui sont plus quelque chose qu'on utilise dans le cadre de festivals, dès lors qu'il s'agit de déléguer le montage d'une pièce ou d'une installation. Bien sûr, ça existe, donc il y a une formulation assez précise, des caractéristiques du démarrage, du redémarrage, de certains cas de bugs, etc. Mais ça va pas plus loin dans mon cas. Il n'y a pas de documentation particulière qui pourrait servir à terme si j'atteignais le niveau de PEC, tu vois. Donc non, j'y pense pas. Pour une autre raison aussi, c'est que certes, j'ai des pièces qui s'inscrivent dans une sorte de mouvance numérique, ça c'est vrai, mais qui se veulent assez critiques sur le numérique et qui font mine de rien, demi-mot du moins, l'apologie du tangible. Et ce qui va de pair avec le tangible, voilà, c'est un petit côté éphémère aussi, etc. L'horloge est un bon exemple puisqu'elle est constituelle d'un mécanisme de montre, mais un mécanisme chinois, c'est les petits boîtiers que tout le monde connaît derrière les montres IKEA. Donc c'est vrai qu'elle est vouée à tenir 84 ans, ce qui sera sûrement son cas, parce qu'elle fera moins de tours qu'une vraie horloge finalement. Mais il y a ce côté assez low-tech. Qui questionne voilà sur est-ce qu'il existe quelque chose d'éternel sur cette terre? En fait, non, tout a une fin, même les choses longues. Ça s'inscrit dans mon travail. Donc, j'espère pas une éternité dans mes pièces. Je ne prétends pas du tout à ça. Au contraire, je parle de cette faiblesse qui nous habite. Et voilà, d'une certaine manière. Donc.
Toujours sur cette question de la pérennité, j'ai vu dans ta galerie, Philippe, j'ai vu des routeurs, j'ai vu des montres, j'ai vu quantité de formes différentes et des dessins aussi, hein, et on pourrait les qualifier certaines même de sculptures, presque plus que d'installations. Dans celles qui ont cette part de ce coefficient de technologie variable, est-ce qu'il y a une forme de garantie? Est-ce que tu délègues l'artiste? Comment ça se passe?
Ça va dépendre de chaque cas, mais je dirais, pour rebondir sur ce que disait Bertrand, c'est que rien n'est éternel, qu'un dessin est une obsolescence, certes, à l'échelle humaine, plus acceptable qu'un routeur ou qu'une montre. Sur les œuvres, j'ai très peu d'heures, en fait, avec comment tu dis, cette technologie
Variable.
invariable, j'en ai pas en fait, donc je m'évite le problème à l'avance. Mais s'agissant des montres, ce qui est important, enfin, ça, nous, ce qu'on vend souvent, c'est un fichier, en fait. Donc, s'agissant des montres, on a vendu le fichier. Donc, le jour où la montre tombe en panne, on a la garantie pour le collectionneur de la remettre sur une autre montre. Et je pense que la beauté du numérique, si on peut parler de beauté du numérique, c'est justement que c'est pour la première fois dans l'histoire de l'art, les choses sont éternelles. Parce qu'à ma connaissance, un fichier va être lu par toutes les machines, de plus en plus. Alors, il y a eu l'obsolescence de plein de systèmes. Hein. Ça, j'en parle, flash, des choses comme ça, sont des exemples de choses où les œuvres du jour au lendemain sont tombées. Mais je pense qu'on a dépassé cette époque et que maintenant, n'importe quelle machine va être capable de lire n'importe quel fichier. Et donc, par définition, ça crée une éternité. Et donc, finalement, les œuvres dont le médium est numérique s'arrêteront quand les machines mourront. Donc, c'est quelque chose qui est important pour moi.
Et c'est pas souhaitable.
Ah bah ça, parce que elles vont mourir un jour. Enfin, j'espère, oui. Ou nous remplacer, mais en tout cas...
Je parle d'une extinction totale des machines. Ouais. En plus, même question un tout petit peu décalée, est-ce qu'il, toi, de ton côté, il t'est arrivé de solliciter des artistes de façon à ce qu'ils, et j'utilise un gros mot, mettent à jour leur œuvre, dans la mesure où elle ne fonctionnait plus, si tant est qu'on puisse considérer qu'une œuvre fonctionne et qu'on la met à jour, je pèse mes mots, mais est-ce que ça t'est arrivé de solliciter des artistes justement au passage d'une technologie à une autre?
Oui. C'est arrivé, ça arrive de temps en temps avec les mises à jour, surtout de Mac ou des ordinateurs, des téléphones, etc., que ça ne marche plus. Souvent, contrairement à, je crois, à ce qu'a dit Philippe, moi je pense que c'est, on sous-estime un tout petit peu la technologie, l'évolution potentielle de la technologie. Et je vois plus de problèmes que ça, parce que je pense que là, quand on voit la courbe, il y a une courbe en fait exponentielle, on dit ça en français, qui va de plus en plus vite. Pour la, et quand ça part vraiment rapidement, c'est bientôt, parce que c'est à chaque fois multiplié par, je ne saurais pas l'expliquer. Ce qui est sûr, c'est que là, nos ordinateurs sont des Néandertals. Et Internet, aujourd'hui, ça existait dans sa forme, aujourd'hui, 25 ans. Ce qui est rien. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que je possède que on ne pourrait même pas envisager. Le site là de Raphaël Rosendahl que vous voyez ici, je vois où on pourrait le simuler ou faire quelque chose de semblant. Il y a plein de choses où je pense pas. Là, des mises à jour, on fait un nouveau logiciel, on peut payer un chinois $50 pour refaire un autre logiciel qui, finalement, le résultat ressemble à ce qu'on avait. Je pense que il faut voir certaines choses, ce qu'on fait surtout aujourd'hui parce qu'on est au début, c'est un peu comme les polaroïdes où les couleurs disparaissent. Aujourd'hui, si on imprime quelque chose, c'est pour soi-disant toujours. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment au début, il y a des choses qu'il faut voir comme des performances. D'où la question de documentation est très importante. Et ça, c'est arrivé aussi, pas seulement des choses qui ont été empêchées de fonctionner pareil avec des mises à jour, mais un autre site, pareil en fait, mais un autre mise à jour qui a fait sur Internet, qui a fait que le site marche pas plus. Et pour le coup, on a fait une documentation. Donc l'œuvre, je l'ai chez moi en vidéo au lieu de voir la pièce en ligne. Et évidemment, ça fait moins la pièce comme elle était, comme site Internet. Donc, on perd peut-être quelque chose, mais en même temps, c'est comme Chris Burden, il n'allait pas se tirer une balle dans le bras tous les jours au musée. Il est temps là, il y a les visiteurs du musée. Donc, en fait, il y a une vidéo de documentation. Je pense que c'est tout à fait juste de voir ça aussi avec des pièces qui pourront pas continuer à poser.
Oui, mais moi je suis quand même pas d'accord avec toi. Enfin, je suis d'accord avec toi. Au début, justement, on a quand même atteint le rythme où on atteint le moment où, en tout cas, les machines s'auto-corrigent. Par contre, la seule chose, effectivement, parce que malgré tout, il y a toujours de l'être humain derrière tous les algorithmes qui nous dirigent, oui, effectivement, si Monsieur Google décide que cette fonction n'est plus valable, effectivement, là, tu as un problème. Mais justement, est-ce que justement les artistes qui travaillent sur ces sites-là ne sont pas en train de nous dire ça également ?
Mais c'est intéressant aussi, je pense que ça dépend en fait, il faudrait penser au cas par cas aussi, hein, voilà. C'est clair. Oui, c'est mais vrai. Ce que je trouve que ce que tu dis aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a des précédents dans la mesure où il y a des œuvres qui disparaissent au final, souvent, c'est la documentation qui finit par faire œuvre. C'est le cas historiquement, notamment du Land Art, où ce sont les photographies et les vidéos qui finalement remplacent, y compris sur le marché d'ailleurs, alors que ce n'était pas fait pour ça historiquement, c'était plus véritablement de la documentation, mais au fur et à mesure où les pièces disparaissent, et c'est le cas de la performance aussi. Et je trouve que c'est intéressant, c'est souvent intéressant de regarder le passé pour envisager des solutions, y compris des solutions d'avenir.
Et c'est le cas des Vermeer qui n'ont pas les mêmes couleurs qu'à l'époque, donc je trouve que ce n'est pas grave, c'est même bon que les choses disparaissent, oui, c'est bien.
On peut restaurer.
On peut restaurer. Alors justement, quand on restaure parfois, tout le monde n'est pas satisfait. Tout le monde n'est pas satisfait des restaurations, mais même quand on a une cathédrale et qu'on lui remet ses couleurs historiques, il y a beaucoup de gens qui sont tristes parce qu'ils avaient l'habitude de la pierre calcaire. On pense souvent le marché avec artistes, galeristes, collectionneurs. Il y a des chemins parallèles. Puisque ici justement dans ce lieu qui est centre d'art et qui s'intéresse depuis longtemps à la question du numérique dans l'art au travers de ses différentes présences, notamment sur ces 20 dernières années dans ce contexte de festival où on est un petit peu en parallèle du marché, la question que je voulais te poser Bertrand, c'est est-ce qu'il t'arrive d'avoir des pièces qui sont produites? Et est-ce qu'il t'arrive aussi d'être un peu en parallèle de cette question du marché où il y a artistes et collectionneurs, mais où on est plus sur des systèmes de location
Des pièces qui sont
pour produits. Des durées limitées
Des locations dans un cadre de collection privée ou ce genre de choses, ça m'arrive jamais personnellement. Mais après, on peut.
Non, je pense même plus de festivals.
Ah oui, voilà, bien sûr. Alors, un festival, ça s'apparente à une location finalement. Parce que une pièce est présentée pendant un mois, trois semaines, peu importe. Mais c'est vrai que généralement, on est rémunéré pour cela. Donc. Est-ce que c'est de la location ? Je sais pas, mais.
Oui, je sais pas comment appeler ça, mais on parle de filles, on parle de.
Oui, oui. Moi, j'ai beaucoup de pièces qui tournent. L'horloge tourne très régulièrement, en fait. Il y a une rémunération, des droits d'auteur, si tu veux, qui sont liés à la présentation de la pièce. Donc, est-ce que c'est de la location ? Je pense qu'on peut dire oui, sans trop.
Les droits d'auteur à la place, oui.
Oui, sans trop.
Oui, oui, sur des durées.
Mais c'est à peu près la seule forme que prendrait cette pratique me concernant, quoi. La production, c'est pas trop pigé la question.
Laquelle ? Sur... Ah oui, non, début, ouais, là, non, mais c'est parce qu'en fait, on a souvent l'image de l'artiste qui crée ses œuvres dans son atelier, seul ou accompagné. Dans la mesure où on est sur des pièces, même, je pense, c'est aussi vrai dans la vidéo, dans l'art, dans l'usage de la vidéo dans l'art, on arrive très facilement sur des projets qui échappent l'atelier de l'artiste et où il y a des productions qui sont extérieures à l'atelier.
Oui, oui, ça m'arrive, bien entendu. Ouais, ça arrive pour des gros projets. Des projets des fois en marge de ceux qui sont plus liés à l'art contemporain, qui ont souvent plus de moyens. Je pense à l'événementiel, ce que ça m'est arrivé d'en faire. Quand j'avais commencé le mapping il y a très longtemps, j'ai ensuite été sollicité de nombreuses fois pour faire des choses en périphérie. Particulièrement dans ce cadre-là, oui, ça arrive. Ou travailler dans des ateliers spécifiques, c'est-à-dire devoir se déplacer à tel ou tel endroit pour travailler avec un laboratoire particulier sur tel ou tel projet, avec des fonds particuliers, dans le cadre de ma pratique artistique aussi, ouais, bien sûr.
Et alors, là, j'ai une série, c'est la série des questions indiscrètes.
Ah. C'est la mienne, elle est passée déjà, la mienne.
Ah, bah, elle était déjà un peu indiscrète, ah, mais on va aller plus encore dans l'indiscrétion, parce que j'ai un galeriste à côté de moi. Non, c'est une question qu'on se pose parfois, beaucoup de gens ont la réponse. C'est quel est le pourcentage dans le cas de la vente d'une œuvre en galerie, ouais, qui revient à l'artiste? Est-ce qu'il est systématiquement le même? Est-ce que de la galerie à la foire, c'est toujours le même?
C'est pas vraiment indiscret, ça.
Hein?
C'est pas indiscret.
Non, mais est-ce qu'il y a des cas de figure où il peut aller à la hausse ou à la baisse? Alors, de combien est-il de ce pourcentage?
Bah, généralement, la règle appliquée, c'est une fois que la partie qui a payé la production, donc que ce soit l'artiste ou la galerie, a été remboursée à la personne qui a payé la production, c'est divisé en deux.
Oui, c'est 50. Hors production, justement, et la coupe de tout.
La production
parfois est prise en compte par l'artiste, enfin, parfois par le galeriste.
Nous, on produit tout, donc c'est très simple. Donc la production nous revient, mais si. Enfin, on produit tout pour les artistes représentés. Pour les artistes invités, dans le cadre de groupe show, là, on ne peut pas produire parce que si on ne vend pas la caisse, on est un peu embêté. Si la pièce est vendue, bah, bien sûr, la partie de production revient à la. À l'artiste. Par contre, il y a toujours 50% pour l'artiste, c'est sûr, mais il n'y a pas toujours 50% pour la galerie, notamment dans le cadre de prêt d'œuvre de la part d'une galerie où il y a des conseils de mode, tout ça. C'est un peu boring en fait.
Oui, non, mais c'est parce qu'on n'est pas toujours au fait, justement.
Mais et même si le collectionneur, c'est toujours 100%. Hein. Moi, il ne me demande jamais.
Ouais, enfin, le collectionneur 100%, c'est un vaste sujet.
Ah, nous ne pourrons pas. J'ai pas la question sur la remise. On abordera la question sur la remise. En plus, est-ce qu'il t'arrive de revendre des œuvres?
Ça, c'est très indiscret.
Ça, c'est très indiscret, tu vois. Non, mais on allait de plus en plus indiscret. Est-ce que tu revends?
Ouais, ça m'est arrivé peu, mais ça m'est arrivé.
Mais plus cher ou quoi?
Comment?
Oui.
Plutôt les plus chers?
Non, je veux dire, il a rendu plus cher, parce qu'il a fait une plus-value sur le.
Oui, oui.
Sur
la
pièce. Ah oui, voilà, plus cher, oui. Tu veux dire, oui. En général, oui, si possible.
C'est pas puisque je fais la spéculation, mais c'était. Ça m'est arrivé de. Oui, voilà. Aussi, la collection prend un petit peu une direction. Il y a des choses qui peut-être paraissent moins cohérentes d'avoir. Et dans ce cas-là, parce que c'est pas seulement une accumulation des choses aussi, comme un grenier de grand-mère. Il faut que ça ait du sens. Et donc là, ça m'est arrivé de revendre, mais très peu, deux, trois choses peut-être. En beaucoup d'années.
Et
question. Après, on peut dire oui, mais là, tu as fait du bénéfice, tout ça. Mais après, c'est réinvesti dans d'autres pièces. Et ils ont jamais. Il n'y a personne qui se plaint quand on soutient un jeune artiste qui a vraiment besoin d'argent ou un jeune galerie ou une jeune galerie pour le coup. Ce qui est pareil, c'est parce que ça ne marche pas tout seul. Et dans ce cas-là, les gens sont toujours contents. Après, bon, si je revends plus cher, après, je peux de nouveau soutenir un autre artiste, une autre galerie, etc. Il n'y a pas de mal. Sauf s'il y a des gens qui le font de façon spéculative, mais ça, c'est autre chose.
C'est pas
des collectionneurs.
Et c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis que c'est intéressant de soutenir un artiste et on pense rarement au soutien du galeriste, mais qui est important aussi.
Galerie,
de la galerie, pardon. Oui, de la galerie. C'est tout à fait pareil.
Enfin bon, en même temps.
Mais, enfin bon. Oups là.
Bah oui, toutes les galeries ont besoin de backers. De, je sais pas comment on dit en français.
Est-ce que tu appelles backers?
Un soutien derrière la galerie. Une galerie, ça coûte une fortune. Toute galerie a un ou deux gros backers qui soutient tel ou tel artiste qui permet à la galerie de survivre dans un premier temps. Se lancer dans une galerie sans backers, c'est du suicide.
C'est impossible.
C'est du suicide.
C'est impossible aujourd'hui.
À tous les points de vue, même si vous êtes milliardaire, c'est parce qu'il faut que les backers font faire entrer les artistes dans les réseaux qu'il faut, ça va faire circuler les pièces, etc.
Alors, Bertrand, est-ce que te concernant, ou tu peux aussi nous évoquer tes émertices, est-ce que tu, de manière générale, tu souhaites systématiquement rencontrer tes collectionneurs quand tu les achètes en galerie, quand tu n'étais pas nécessairement là au moment où ça s'est passé? Est-ce que ça t'est égal? Est-ce que tu apprécies? Comment tu vis ça?
Ah, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. De façon naturelle, disons qu'on a peu tendance à rencontrer, enfin dans mon cas, j'ai pas tendance à rencontrer les collectionneurs. La vente s'effectue via la galerie. Il arrive des fois qu'on aille accrocher la pièce, donc auquel cas on rencontre le collectionneur. Je manifeste pas de besoin particulier de les rencontrer. Il y a quelque chose d'assez intime dans une pièce, c'est vrai que il y a un petit déchirement quand même. Du coup, bon, il m'arrive bien sûr le milieu est assez petit hein, finalement, donc je les vois. J'en passe certains souvent même, et on est même amis au bout d'un moment, voilà. Mais je manifeste pas ce besoin-là de les rencontrer particulièrement si je les connais pas, que je sais qu'ils m'ont acheté une pièce. Bon, voilà.
Parce que je pense qu'à l'inverse, il y a beaucoup de collectionneurs qui, en général, aiment bien rencontrer l'artiste.
Oui, ça arrive souvent. Enfin, que si se trouve qu'on est dans la galerie, à un moment, un collectionneur passe, on passe des heures à discuter, si ça, les choses et d'autres. Mais il y a vraiment un rapport affectif à la pièce qui fait qu'il y a une petite chose qui se passe quand je m'en sépare. Je préfère pas voir.
Voilà. C'est comme un enfant.
Je sais pas. Ça dépend des pièces aussi, bien entendu, mais. Ouais.
Et alors pour revenir un petit peu sur le marché, et vous pouvez répondre encore une fois les uns les autres, hein, on peut ouvrir au maximum, qu'est-ce que tu penses, notamment Philippe, des ventes aux enchères? Je sais que de manière générale, les galeries ne sont pas toujours très fans des ventes aux enchères, je ne sais pas ce que tu en penses toi en tant qu'artiste.
Moi j'ai participé, ça m'est arrivé je crois il y a très longtemps.
Mais plus particulièrement celle de Philippe à New York est considérée comme l'une des, si ce n'est la première, dite de vente plus ou moins numérique.
Il y en a une
à New York.
Oui, il y en a une deuxième à Londres et il n'y en aura plus jamais.
La deuxième partie par.
C'était toujours.
Philips.
Oui, Philips Puri, c'est ça.
Ouais, avec.
Lindsay Award. Lindsay Award. Toujours curatrice.
Pourquoi tu dis qu'il n'y en aura plus?
Bah, c'est ce qu'ils ont décidé.
Hein?
C'est ce qu'ils ont décidé, c'est officiel.
Ah, ok.
Bon, qu'il n'y en aura plus en tout cas.
Bah, oui, oui, pas, oui. En tout cas, pas par eux.
Non, si, mais enfin, en tout cas, pas dans l'année, dans les 6 mois qui suivent. Dans la
programmation. Et d'après toi, pourquoi?
Bah, parce qu'ils n'ont pas gagné assez d'argent.
Oui, oui, non, mais.
Tout simplement. Bon, moi, j'ai pas d'avis particulier sur les maisons de vente aux enchères. Ça me choque toujours quand qui vendent du premier marché. Ça, c'est toujours étonnant. Ils peuvent griller très très vite.
Ce que tu appelles premier marché,
un artiste qui introduit une œuvre et paf, c'est ce qui s'est passé dans le cadre de pas de loin de ce que tu citais. Par hasard, Y, Z, une pièce sur une artiste ou un artiste donné va s'envoler complètement aux enchères. Parce qu'il y a eu un coup de folie sur la pièce, ça ne signifie rien sur la cote de l'artiste. L'artiste est persuadé que maintenant toutes ses œuvres valent ça, et en fait ça l'autodétruit dès le départ. Donc vraiment les ventes, les maisons aux enchères peuvent être vraiment le diable pour les jeunes artistes. Après, pour moi, les ventes aux enchères, pour moi, ça a toujours été plus pour les voitures anciennes, des choses comme ça.
Christie va être content.
Mais par exemple, il y a des artistes qui se sont servis de ventes aux enchères pour des fuck-off à leurs galeristes. Enfin, c'est un outil assez vicieux, je trouve. Et puis, en tout cas, c'est assez incompatible avec une carrière à long terme de l'artiste.
Et concernant.
Émergent.
Oui, oui, oui. Tu considères que dans l'absolu, c'est moins gênant quand une œuvre a déjà eu un début de carrière et qu'elle passe en effet de main en main.
Après, oui, évidemment.
Oui, parce que là, elle repasse plus difficilement par la galerie.
Non, puis c'est normal. Après,
oui. Et là, ça va de collectionneur à collectionneur directement. Alors, justement, toi qui, en plus, passe un certain temps connecté, y compris pour observer tes œuvres, qu'est-ce que tu penses de sites comme ArtPrice qui, aujourd'hui, et vous pouvez répondre les uns les autres, hein, aujourd'hui est en train de devenir le site qui donne les prix. Qu'est-ce que tu penses aussi de Artsy, qui est en train peut-être le site le plus visible en termes de vente en ligne?
Visible en termes de visibilité, pas en termes de vente. Bon.
Ok. Tu dirais lequel, toi, en termes de vente?
Je sais pas.
Ok. Et éventuellement de Sedition, qui est plus.
Hein? Oui, pas de Late.
Pas de Late. Plus que Artsy.
Ah oui.
Artsy, il fait pas des ventes, je crois.
Si.
Ah, il fait des ventes.
Ah, bah, ils font pas des ventes directement, mais on peut contacter la galerie, c'est
important. Ah oui, oui.
Alors que Padelette vend direct.
Ouais.
Et d'ailleurs, Padelette, c'est en collaboration avec Padelette que s'était fait la vente, la première vente Philips sur.
Et la deuxième, ouais.
Et la deuxième aussi, d'ailleurs. Ouais. Et où éventuellement, c'est Digion où on peut plus. On va parler là plutôt de droit d'auteur ou de location, puisque les œuvres sont en édition et on est plusieurs à en posséder un morceau. Qu'est-ce que tu penses, toi, de est-ce que c'est tu as un grand tu pratiques beaucoup Art Price, Padelette, Sedition et les autres, ou est-ce que ça t'intéresse pas plus?
Non, je pense que c'est en début de parcours, ils sont pas d'intérêt maintenant. Ils ont pas d'intérêt maintenant. Ça peut devenir bien, peut-être dans 5 ans.
Ah oui, tu veux dire, oui, ce sont des sites qui sont assez jeunes.
C'est très jeune, ça. Ça oui. Padelette, ça doit faire 2 ans, non, même moins que ça existe. Artsy, pareil. Et il y en a d'autres aussi. Art Price, c'est différent, parce qu'il y a Art Price, qui, et il y en a plusieurs comme ça, qui cataloguent tous les ventes aux enchères dans le monde, avec les prix. Donc on peut aller voir combien coûtait en 93 un Picasso dans une vente à Londres. Donc ça, c'est différent. Après, les sites là, aujourd'hui, c'est un petit peu, ils vendent, c'est comme... oui, ça n'a aucun intérêt.
Oui, du reste...
vraiment aucun intérêt. C'est comme un petit peu acheter des... En plus, ils ne traitent jamais des pièces majeures ou des choses importantes. S'il y a un artiste important, il y a des éditions en 300 exemplaires ou des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment le bas du marché de l'art qui passe dans ces...
Sachant que tu aimes bien aussi, tu me l'as confié un jour, rencontrer les artistes, et c'est d'ailleurs souvent des artistes qui t'en présentent d'autres, et c'est comme ça que tu rencontres les émergents. C'est pas au travers de ces sites web,
oui.
Justement.
Ah non, ça apparaît des années après ce genre de...
Alors là, j'attaque les questions idiotes. Est-ce qu'il est fréquent que des artistes s'échangent des contacts de galeries ou voire même de collectionneurs?
Pas du tout. Enfin, je parle de mon expérience encore.
Oui, oui, non, mais...
Oh, et à ma connaissance, bon, j'ai pas mal d'amis artistes, c'est vrai. Franchement, non, il n'y a pas de sorte de comment dire, de Tinder pour...
C'est peut-être une idée.
Ouais, c'est pas mal, je suis en train de penser
à
ça.
On va faire une application Tinder, échange de collectionneurs à la maison pop, qu'on va vendre
en
janvier.
Des binômes à créer comme ça, en effet. À voir. Mais non, pas du tout, c'est tellement spécifique, il n'y a pas de compatibilité d'artiste à un autre, si tu veux. Je disais, c'est vraiment, au même titre qu'une galerie, un collectionneur, c'est aussi une question d'affection, c'est comme une histoire d'amour. On ne peut pas fabriquer, quand on imagine que tu es célibataire, tu veux trouver un mec ou une fille, je ne sais pas, ça ne se fait pas comme ça, quoi. Ça ne sert à rien de dire, bon, ben, c'est un peu pareil, les collectionneurs... Tu peux aller tout hasard dans un dîner, voilà, et conseiller un pote artiste qui tu penses à un travail qui peut intéresser tel ou tel collectionneur. Ça, oui, ça arrive, parce que les collectionneurs sont aussi en demande. Ça arrive qu'ils te demandent, voilà, si tu connais quelqu'un qui travaille plus de ce type de sujet ou de matériaux. Oui, dans ce sens-là, mais ça va pas beaucoup plus loin, franchement, enfin, à ma connaissance.
Toujours. Et justement, sur la question des échanges... entre artistes, entre galeristes. Moi, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, Philippe, que je ne vois pas si souvent des galeristes aller au vernissage des autres galeries. En revanche, ils se côtoient évidemment dans un temps fort qui est la foire. Est-ce que, de quoi parle-t-il?
Tu veux dire, est-ce qu'ils se fréquentent ou est-ce qu'ils se parlent?
Est-ce qu'ils se fréquentent, est-ce qu'ils se parlent et de quoi ils se parlent?
Non, mais c'est des... Moi, je suis vraiment open, c'est-à-dire que je pense que justement, à l'ère de l'Internet, essayer de garder sa petite part de gâteau, c'est complètement ridicule. Et je pense qu'il faudrait effectivement que les gens s'ouvrent, se parlent plus et s'échangent. Enfin, je parle des galeries, hein, s'échangent plus d'infos et des collaborations un peu plus fortes. Mais c'est pas dans l'esprit parisien du tout, me semble-t-il.
Tu penses, oui, parce que tu as travaillé à Londres.
J'étais londonien avant. En fait, là où il y a vraiment des événements communs, dans une intention saine, commune, j'ai l'impression qu'à Paris, quand il y a des événements communs, alors je me trompe peut-être, hein, c'était pas de chance, mais il y a toujours des arrière-pensées, des choses comme ça. enfin, pour te dire de quoi se parlent les galeristes quand ils se rencontrent, moi je parle essentiellement du temps. Mais voilà.
Des noms. Et alors, en plus, bon, tu connais d'autres collectionneurs, y compris d'ailleurs quelques collectionneurs avec ses, parfois ayant quelques œuvres avec une part de numérique. Je pense notamment à Alain Servet qui a tweeté cet après-midi et qu'on connaît tous plus ou moins autour de la table.
J'espère que la captation fonctionne alors.
Oui, oui, parce qu'il était très impatient de voir la captation, puisqu'il est, quand il ne voyage pas de par le monde, à Bruxelles. Et comment est-ce que alors on peut imaginer que les collectionneurs se reconnaissent dans un dîner ou une galerie, on s'est fait un déjeuner dans une grande galerie il y a pas longtemps ensemble, mais les collectionneurs d'un art médiatique, il y en a pas tant que ça, est-ce qu'ils se connaissent, est-ce qu'ils se reconnaissent? Tu m'avais parlé d'un autre collectionneur qui a essentiellement des contrats dans quasiment une sa collection qui tient dans une boîte. Est-ce que vous connaissez de par le monde avec cette spécificité justement d'avoir ces œuvres post-internet, ces œuvres plus ou moins numériques? S'il y a un réseau?
Pas vraiment, il n'y a pas de Tinder pour ça non plus.
Non plus.
Mais donc, deuxième.
On va faire deux, ouais. Tinder, Annie, à
Gopian. Mais oui, je pense qu'on se rencontre peut-être au vernissage, après au dîner d'un artiste qu'on collectionne, peut-être que, comme ça. Je ne pense pas qu'il y a de. Il n'y a pas des réseaux, il n'y a pas des francs-maçons, des gens qui collectionnent ça, et des templiers qui... Enfin, il n'y a pas vraiment de...
D'ailleurs, on se verra peut-être... on s'était vu la dernière fois à Munich, je ne sais pas si vous y retournerez.
Et ils ne le font pas à Munich, ils le font à Bruxelles cette année.
Ah, non, le Unpainted?
Ouais, ah oui, t'es sûr, à Bruxelles, sûr. Pendant à Bruxelles, où c'est confirmé.
Ah, ben j'ai marqué Voyage Munich dans mon agenda. C'est justement une foire qui s'intéresse à ces questions du croisement entre art et numérique. Mmh. Moi, que j'avais trouvé pas inintéressante il y a 2 ans. Mmh. okay. Ce n'était pas une question indiscrète.
En fait, on a poussé à ce qu'elle se fasse à Bruxelles, non pas que j'aime pas Munich, mais le problème, c'est qu'à Munich, personne n'y va. Enfin, je ne sais pas si vous avez envie d'aller à Munich en février.
Moi, perso, ça m'arrange. Hein.
Mais Bruxelles, ils veulent le faire cette année dans un hôtel particulier. Enfin, j'espère que je ne dévoile pas trop d'infos. Avec des curations assez fortes, des curateurs assez high profile. Et ils vont faire intervenir quelques galeries. Mais je pense que l'idée, justement, c'est de décloisonner complètement la foire. Mais c'est une bonne idée, je trouve. Parallèlement à Bruxelles, où il se passe énormément de choses en ce moment, notamment avec le fait que Independent s'installe à Bruxelles pour la première fois, donc va piquer les meilleures galeries à Bruxelles. À Bruxelles qui disparaît, enfin qui disparaît pas, mais qui. Ben, il y a tous ces enjeux, ouais, oui. Et donc le fait que ce soit à Bruxelles, je trouve ça intéressant.
Alors, on peut échanger un petit peu ensemble. Je ne connais pas tout le monde dans la salle, mais. J'y ai quelques amis. Annie, tu peux prendre la parole. Annie Agopian, directrice du Centre d'Art.
Les 10%
hein,
sur
10%.
C'est beaucoup.
Je le sais, ça m'a coûté assez cher cette année. Je plaisante, évidemment. Il y a toute l'équipe aussi ici. On a un artiste, Pascal Dombis, qui a été dans le deuxième volet. Magali de Bazeille, qui est artiste aussi. Est-ce que quelqu'un veut ajouter, que ce soit une question, un témoignage, Florian, je te vois là-bas. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter aussi quelque chose? On a des micros peut emmener jusque dans la rue.
Moi, j'ai une question pour Philippe, puisqu'il parlait de prospective. Comment il voit son métier de galeriste dans 5 ans ou 10 ans?
Je ne crois plus du tout aux galeries. Mais je l'ai su dès le départ.
Qu'est-ce que tu vas devenir?
Mais non, je sais déjà. Les plans de transformation sont en cours. Et de très bons projets sont annoncés prochainement. Non, la galerie destination, ce que j'appelle, où grosso modo on prépare un solo ou même un groupe show, et puis on fait un vernissage, et puis les gens viennent. Ça date du 19e siècle, du 20e siècle. Il me semble que la galerie est nécessaire en tant que filtre. Mais je pense qu'il faut changer de nom, il faut plus appeler ça une galerie, il faut appeler ça, moi en ce qui me concerne, plus un centre de recherche. Alors c'est peut-être un peu pédant de dire ça, il faut trouver un autre terme, je pense. Mais en tout cas, c'est une étape transitoire uniquement maintenant. Et je pense que le système des galeries va complètement s'écrouler. Ouais, voilà, c'est peut-être pas. Vraiment, sincèrement. Enfin, il y aura d'un côté les énormes puissances galeries, mais qui ne sont pas des galeries, qui sont des supermarchés avec une antenne dans chaque... à Beverly Hills, sur les champs, machin, truc. Bon, je sens citer le nom. Le middle gallery est morte, ça c'est sûr. Et après, la galerie émergente ne s'en sortira que si elle est vraiment pointue et c'est la des backers d'institutions ou des choses comme ça. Mmh. Ça, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Hein. Peut-être que je me trompe. Peut-être que dans 25 ans, il y aura encore des galeries partout. Mais,
En tout cas, il y en a encore beaucoup.
Il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop d'artistes. Il y a beaucoup trop de galeries.
Ah, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui.
Jean-Pascal?
Oui, j'ai beaucoup aimé l'idée de la sculpture et qui trônerait là, sur le piédestal dans un parc où des gens, effectivement, sans trop savoir qu'il y a une sculpture là, passe dans le parc, la voit, etc. Et cette comment dire, métaphore illustrait un peu la pièce que vous avez achetée. Et voilà. Et que pensez-vous, vous qui êtes l'acquéreur de cette pièce, que pensez-vous de la qualité du regard des gens, des 4,5 millions de personnes qui regardent ou qui vont ou qui voient effectivement cette pièce? Est-ce que c'est questionnant pour vous ou est-ce que vous êtes indifférent à la qualité du regard des gens qui viennent sur le site?
Oui, pour le coup, je pense que là, je suis assez content parce que j'ai même des retours sur comme j'avais dit, j'avais préparé, une documentation, enfin, je vais peut-être le faire un jour. Où je mettrai tout ce genre de choses, mais il y a des, comme je disais, il y a des gens qui ont blogué là-dessus ou qui ont mis des commentaires, etc., sur cette pièce-là, et qui ont visiblement passé un peu de temps à la regarder et ont été dérangés ou ils ont ça leur a fait rire, etc. Donc je suis très content que ça provoque une émotion, que ça soit pas parce que je sais aussi que moi, je suis de Stockholm, et quand j'avais déménagé de Stockholm, et je suis revenu quelques années plus tard, j'avais vu une sculpture que j'ai dû passer devant toute mon enfance, mais je ne l'avais jamais remarquée. Et ça, c'est quand même la pire chose qui peut arriver à une œuvre, je trouve. Donc,
non, mais c'est vrai que c'est la...
Je suis content que ça provoque des émotions, c'est ce que je veux faire. Moi, je suis musicien, et c'est pareil, moi, j'ai envie de... que les gens disent que c'était extraordinaire ou alors qu'ils disent c'était j'ai détesté, mais le pire c'est que oh, c'était bien, parce que si ça communique rien, je pense que ça n'a aucun intérêt. Donc la qualité du spectateur, après on peut dire oui, il n'y a pas assez de gens qui sont connaisseurs, mais c'est pas important. L'art, c'est pour tout le monde, c'est quelque chose à partager. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée aussi de site internet, parce que je veux que ça soit visible pour tout le monde. Je suis pas jaloux, moi. Enfin, je veux que ça soit, que tout le monde puisse en profiter.
Et on peut avoir un regard très distrait dans le musée aussi.
Oui,
moi le premier, hein,
mais justement, c'est-à-dire le fait comme ça que 4,5 millions de personnes voient ainsi, je pense que on peut s'interroger. Parce que ces œuvres-là suscitent peut-être notre interrogation sur des modifications du regard. Mmh. Voilà, qu'ils soient indifférents, certains ont fait l'apologie au XXe siècle, hein, d'une certaine indifférence en art. Hein, voilà, bon. Voilà, donc c'est questionnant. Quoi. Alors peut-être, si ça n'intéresse pas les critiques, ça doit intéresser les sociologues, j'en sais rien. En tout cas,
c'est moi, très
je pense
intéressant.
Que ça doit intéresser les artistes et les gens qui apprécient l'art. Mmh.
Et j'en profite d'ailleurs pour évoquer ce livre qui vient de sortir aux Presses du Réel sur le marché de l'art vidéo, de l'art numérique. On en parlait tout à l'heure.
Ah oui, comment collectionner de l'art numérique.
Vidéo et numérique, je crois. Parce que vous y êtes, je crois, tous les deux cités. Peut-être toi, en tout cas ta galerie, la New Gallery.
Ouais, c'est...
Je
ne
sais pas.
C'est
cité.
C'est
ah
votre
oui,
main.
Je t'ai cité.
Ouais.
Ah bon, non.
Ouais. Et
c'est Marie-Martin,
je pense. Ouais. Ils sont trois côtes.
Non, il y a Marie-Martin. Ouais, côtes, dessus, moi, j'ai...
Ah, t'es dessus aussi. Ouais, ouais, ok.
Quand je
et
avec vous, ça.
Bon, on va vous laisser continuer. Peut-être, sinon, on peut aussi aller prendre un verre et continuer cette discussion de manière plus informelle, et ben moi je vous dis à tous les trois, pour mille raisons, merci à vous et merci à tous d'avoir bravé. Oui, pardon, une dernière.
Excusez-moi, j'ai une question, parce que là, sinon, je n'aurai pas les réponses. Je
profite de votre. Vas-y, vas-y.
Que représente le marché de l'art spécifiquement numérique aujourd'hui? Alors, vous êtes là, donc je ne vais quand même pas.
En pourcentage?
Bah, oui, c'est, oui.
En pourcentage, c'est faible.
Il n'y a pas de chiffre.
Maintenant, il n'y a pas de chiffre, mais est-ce que. Moi, dites-moi ce que vous en pensez, mais je dirais, au regard d'une exposition qu'on apprécie ou pas du reste, mais elle a le mérite d'exister, qui est Coworkers, où les œuvres, pour l'essentiel, même si elles sont imprimées, même si elles sont sculpturales et autres, sont liées à l'influence de l'Internet sur nos sociétés et donc aussi sur l'art, que plutôt que d'envisager un pourcentage d'œuvres qui seraient numériques et l'autre qui ne serait pas, je pense qu'il y a une part de numérique dont... Je dirais, moi j'ai pour habitude de dire dans toutes les œuvres. Parce que je pense que même un artiste peintre peut très bien faire une première recherche sur Internet et avec le phénomène de la, notamment de Serendipity, d'aller ici et là justement avec ses services, son œuvre en sera affectée, plus ou moins. Et donc finalement, voilà, je pense que c'est comme ça, on est d'accord. Après, si on parlait d'œuvres spécifiquement numériques où il y a par exemple un ordinateur, je pense en effet que c'est assez faible. Mais je pense en revanche que c'est l'idée de l'exposition ici, où il y a des pièces qui sont inertes du point de vue du matériau et pour autant qui sont, à mon esprit, extrêmement numériques.
Oui, d'ailleurs, le terme qui a été très débattu après, c'est le terme post-internet. Et l'idée au départ avec ce terme, c'était de dire que on vit dans une société qui a complètement accepté Internet, où on est post l'arrivée, où native Internet était mieux en fait. C'était, on a dit les deux au même temps, et après post Internet a pris, parce que je pense que c'est plus facile à dire.
Parce qu'en art, on aime bien les postes aussi.
Ah.
En art, on aime bien les postes.
Enfin, c'est un gros mot maintenant, post-internet. C'est un gros mot maintenant, post-internet.
Ouais, donc, native digital ou quelque chose comme ça, je trouve que c'est représentant qu'on est, tous influencés par Internet.
Et l'art aussi, évidemment.
Oui, tout. Donc, on est...
Même si, en effet, ce n'est pas nécessairement revendiqué. Mais c'est l'idée que ce soit revendiqué qui est intéressante, je trouve, au musée moderne actuellement.
Oui, de toute façon, plus personne n'arrive à être offline, tout simplement. Toujours... Soit, je suis sûr que là, on est capté numériquement. Je pense qu'il y a 2-3 personnes qui ont reçu des textes ou des emails. Donc, en fait, à part aller sur une île déserte, que je ne souhaite à personne, tout est digital.
Et on va pouvoir retourner tout de suite sur Twitter. En tout cas, merci à vous. Je propose qu'on poursuive de manière informelle. J'en profite pour remercier, parce que c'est ma dernière présence sur une table, toute l'équipe de la Maison Populaire avec qui j'ai passé une année exceptionnelle. Et on a un finissage avec une performance dans cette salle d'Antoine Deforte, un faible degré d'originalité sur la question du droit d'auteur, justement, qui est très intéressante, à l'occasion du finissage de cette série d'expositions et du lancement du catalogue livre aux éditions Scala. Je l'ai dit, merci à tous.
Merci.